tiré du film Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life.
Oui, une chanson qu'on écoute avec grand plaisir. Et c'est grâce à vous, Michel-Maxime Legault. Bonjour, Michel-Maxime.
Allô, bonjour, je suis très content d'être ici.
Parce que cette chanson fait partie de votre roman le plus récent, Micheline, qui s'inscrit dans la trilogie de Saint-Polycarpe, parce que
Exactement.
C'est comme ça que vous l'avez nommée.
Oui, maintenant, oui. Après Micheline, on va faire Micheline et Michel. C'est là qu'on a comme déterminé, on a fait, ah oui, ça sera une trilogie oui. de Saint-Polycarpe, de mon village, d'où je viens,
oui.
La ruralité, tout ça.
Donc, il y a eu Micheline, que j'ai vu aussi au théâtre.
Oui.
Micheline, qui est d'abord un roman qui a été transposé pour la scène et déjà, vous avez présenté la pièce.
On a présenté ça au BIC.
Comment c'est ça s'est passé?
Très bien. Il y a une dame oui. qui est venue me voir à la fin. J'ai trouvé ça tellement touchant. Elle me dit, je vous dis, elle avait les cheveux au burn, les sourcils dessinés comme les Micheline que je décris dans le roman.
Oui, votre mère, votre tante.
Et elle a dit, ça me réconcilie avec mon oncle. J'ai toujours... haï mon nom, mais elle dit maintenant je l'aime, mon nom Micheline, grâce au spectacle. J'ai trouvé ça tellement touchant. Je fais mission accomplie, si c'est pour ça.
Parce que c'est un prénom qui est quand même en voie de disparition. Vous le dites aussi dans votre roman.
Ouais.
Vous vous posez des questions sur ce prénom, mais il est très important, ce prénom, dans votre vie.
Ben oui, évidemment. Ben Micheline, c'est ma mère.
Ouais.
Micheline a toujours été. Même mon père a dit toi, t'es le fils d'un moment, c'est sûr que t'es le préféré de ta mère. Mais il disait tout le temps ça en gag. Mais en même temps, ma mère avait comme un rapport privilégié avec moi parce que j'étais hypersensible, parce que justement, j'étais différent des autres, tout ça, fait qu'elle voulait me protéger.
Issue d'une famille de sept enfants.
Le petit dernier, qui avait un souffle au cœur, qui se sentait pas bien sur le territoire, qui faisait mon Dieu, mais moi, je veux être un artiste. Ma mère a fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là?
Mais elle était toujours dans l'ouverture et l'acceptation. Hein?
Complètement. Et mon père aussi.
Oui.
Quand j'ai dit, moi, je veux être un artiste, ils ont fait comme, OK, bon, tu veux faire des cours de piano? On veut faire des cours de piano. Tu veux faire des cours de théâtre? Puis ma mère a dit, on ne connaît pas ça, les choses d'artistes. Je trouvais ça tellement beau qu'elle disait ça, les choses d'artistes.
Parce que ce sont des agriculteurs, vos parents.
Agriculteurs,
ouais.
de génération en génération. Fait que eux autres, ils ont fait comme, bon...
Mais je dis parce que, en voulant dire que les agriculteurs étaient fermés à la culture, et pourtant, non, la culture dans
oui,
le sens
exactement.
De soya, de maïs, etc., mais aussi, ce sont des gens qui cultivaient. Mon père était agriculteur et c'était un homme qui lisait, c'était un intellectuel.
Pas dans ma famille. Moi,
Puis
moi, c'est quand j'avais vu l'émission Fort Boyard que j'avais voulu devenir un artiste. J'ai dit, en écoutant Fort Boyard, moi, je me suis dit, je vais aller à Fort Boyard.
C'est le père Foura qui a changé votre destin.
Oh non, pas père Foura. Peut-être plus Philindra. Tête de tigre, en tout cas. J'avais demandé à ma sœur schizophrène qui avait toute sa tête, j'ai dit, Chantal, oui. comment on fait pour aller à Fort Boyard? Elle dit, il faut que tu sois un artiste. Alors, moi, j'ai voulu devenir un artiste pour aller à Fort Boyard. C'était mon but dans la vie. Alors, je suis allé à Fort Boyard le visiter cet été, mais sinon, j'ai pleuré. Devant
je
le
comprends.
Monument.
C'est tellement important et symbolique
moi,
pour vous.
C'était comme l'évasion, le rêve, l'imaginaire. Ça fait que je me faisais des Fort Boyard à la ferme. Ça fait que ma mère, elle dit, il va-tu lâcher son Fort Boyard? Mais il voyait bien que j'avais comme d'autres aspirations.
Mm-hmm.
Et ils ont toujours respecté ça. Ils ont toujours été dans l'ouverture. T'sais, ils ont quand même eu ma sœur schizophrène qui avait toute sa tête, je l'appelle comme ça parce que c'était mon ange gardien.
Et c'est grâce à elle,
grâce
d'une certaine
elle.
Façon, que vous n'êtes pas appelé non plus Micheline.
Et oui, exactement. Ouais. Et que je suis devenu un artiste et tout ça. Elle m'a dit, toi, va-t'en, fuis la ferme, va faire tes affaires
ouais.
d'artiste.
Chantal qui n'est plus.
Qui n'est plus,
non.
qui est décédée.
Vos parents sont toujours en vie.
Mes parents sont toujours en
ouais.
vie, ils ont toujours le regard vif, toujours lumineux. Je les trouve magnifiques avec toutes les épreuves qu'ils ont vécues. Puis j'avais envie de faire une ode à ces femmes-là parce que, en fait, Micheline, oui, je parle de ma mère, mais je parle aussi de ma tante, mais
Micheline,
qui est une fiction.
C'est pourquoi il y a un S.
Il y a un S,
ouais.
voilà. Et Micheline à Robert, j'avais une Micheline dans ma famille, mais qui était plus une tante. Qui était
flamboyante hein?
mais oui. tu sais, elle avait apporté des belles robes puis tout ça, puis ma mère était en legging, puis ça sentait la ferme, puis elle arrivait au jour
même
de l'an.
Même quand vous rencontrez là, en famille
ouais,
au jour
ouais,
de l'an.
Vraiment. Tu sais, il okay. y avait une différence entre les deux Micheline.
Ouais. Il y avait Micheline à Robert et Micheline à Yvon.
Exactement.
Ouais.
Puis je me demandais pourquoi on les appelle de même, ça n'avait pas de bon sens. Et c'est une fiction, c'est pourquoi c'est un roman, parce que je me suis inspiré de ma tante, mais j'ai plus raconté l'histoire d'une amie qui est décédée dernièrement, qui a eu un diagnostic de cancer, elle m'a dit « j'ai pas eu la vie que je voulais avoir ».
Ah ouais.
Et j'ai dit « Denise », elle s'appelait Denise, j'ai dit « Denise, quelle vie tu voulais avoir ?» Elle dit « Bien, je voulais être médecin, mais mon père m'a toujours dit « c'est pas pour les femmes, ce métier-là ». Et là, j'ai comme... En fait, j'ai fait « OK, oui, c'est lourd ».
Elle n'a pas eu les mêmes parents que vous, là.
Non. Et elle s'est fait laisser par son mari, qui était gay, tout ça. Fait que c'est toute une histoire que moi, j'avais envie de transposer dans cette Micheline à Robert. C'est pourquoi c'est un roman, parce qu'il y a une fiction là-dedans. Et que c'est... Oui, tout ce que je raconte sur ma mère, sur le milieu rural, ça, c'est tout vrai. Mais tout ce qui est Micheline à Robert, c'est un mélange de toutes les Michelines, toutes les femmes de cette époque-là, qui avaient pas nécessairement la vie qu'il voulait avoir, mais... Et quand j'ai parlé à Denise avant qu'elle meure, j'ai dit, mais OK, t'as pas eu la vie que tu voulais avoir, mais quelle mort tu voudrais avoir? Parce que moi, je suis metteur en scène. Moi, je peux t'organiser ça. Je vais organiser des funérailles.
Et dommage finalement... qu'elle soit pas là pour assister à la pièce ou lire le livre. Mais...
Ben, je sens que, tu sais, qu'il y a une présence. Je sens qu'elle est là derrière moi, tu sais, avec tout ça. Puis j'y avais dit que ça allait exister. Ça,
mais alors, ces funérailles sont assez exceptionnelles, là.
Ah oui, on s'est gâtés. Avec un verre de vin, on avait comme tout organisé. Bon, on avait ri. Bon, j'ai encore cette vidéo-là où on est filmé les deux. Puis j'y raconte ces funérailles. Puis elle rit. À gorge déployée.
Il y a eu
puis...
des moments de bonheur dans moment toute cette tragédie.
Vraiment. Et c'est ça que j'avais envie de raconter dans les Michelines.
Et donc, ce livre-là rend hommage aux femmes et à certaines femmes, une classe de femmes qui a été comme moins considérée peut-être.
Oui, puis mon père, bien, c'est sûr que mon père était... C'est un homme, t'es privilégié, il y avait comme... Tu sais, on se posait pas la question. À un moment donné, ma mère a fait un geste politique et féministe en disant « Hey, moi, je veux mon nom sur la ferme.
Ouais. »
Et ça sera pas Micheline Legault, ça va être Micheline Martel, parce que si tu me laisses...
Son nom à la naissance.
Exactement. Puis elle dit « Si tu me laisses du jour au lendemain, moi, je vais pas me retrouver devant rien. » Puis j'avais trouvé ça très fort. J'ai dit « Ma mère, elle se tient debout. »
Et votre père a été ouvert à cette idée.
Il a fait oui, OK,
parfait. Il n'a pas le choix de toute façon,
non,
j'imagine.
Je pense que, ben, avec tout ce qu'elle faisait, tu sais, avec les 7 enfants qu'elle élevait, elle faisait les soupers, puis en même temps, elle faisait, tu sais, elle traire les vaches, tout ça, il voyait bien que, tu sais. Fait qu'il y avait une reconnaissance là-dedans, et j'ai trouvé, puis même mon père, c'est de lui que je vais parler dans le troisième, davantage.
Yvon,
mais ça va être plus sur les Michel de cette époque-là, tous ces hommes... moustachu, bedonnant, mais avec qui était voué au silence. J'ai envie de parler de ces hommes-là, de cette époque-là.
Oui.
Mais c'est surtout de voir à quel point ils ont évolué. Mon père a tellement évolué aussi, puis ma mère aussi, des fois, tu sais,
Grâce à votre mère, grâce à son ouverture aussi d'esprit, à ses enfants.
À ses enfants, tu sais, dans l'adversité, ils se sont dit, ben comment on travaille avec ça, comment on évolue, puis comment on accepte nos enfants malgré leurs différences.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'à 7 enfants, c'est autre chose. Je pense que si j'avais été fils unique, homosexuel, qui ne reprenait pas la ferme, mes parents auraient peut-être été plus confrontés à la situation. Mais là, ma mère a dit tout le temps, il sera comme ça, celui-là. J'adorais ça parce qu'à chaque fois, quand je suis né, j'ai fait, lui, il sera de même.
Ouais. Il sera comme ça, puis elle vous disait aussi souvent, prends-toi.
Prends-toi. Ça, c'était. Mais je me dis tout le temps maintenant. Puis
oui.
Des fois même.
Ça relativise.
C'est pas de se noyer. Ben, c'est parce que moi, je suis très. J'ai mon hypersensibilité, mon imaginaire peut faire en sorte que je peux. À un moment donné, l'écureuil peut vraiment rouler dans ma tête longtemps.
Ouais, pas pour le mieux.
Pas pour le mieux. Puis des fois, il faut que je dise à l'écureuil dans ma tête de dire, là,
prends-toi.
Puis je trouvais ça, mais je trouvais ça beau, fait que je me le répète souvent.
La citation, le cimetière est le lieu le plus riche du monde, car c'est là que reposent les rêves non réalisés, les talents non exprimés, les idées non partagées, les projets non accomplis. Ça fait réfléchir, cette citation-là du docteur Miles Monroe. C'est important pour vous de mettre cette citation-là en ouverture de votre roman Micheline.
On a hésité parce qu'on a fait, est-ce que ça dit quelque chose? On s'est posé la question de mettre cette citation-là, mais finalement, je voulais vraiment la mettre parce que, tu sais, même, je vieillis, je vois des gens qui partent autour de moi, tout ça, puis je me dis
comme votre ami Denise.
Comme mon ami Denise, mon ami Claude Poisson aussi, un metteur en scène qui est décédé dernièrement, puis j'ai fait, oh mon Dieu, puis je vois, tu sais, que la vie avance, puis des fois, ben on part, puis on n'a pas réalisé nécessairement tous les rêves qu'on voulait réaliser parce que la vie est courte, puis la vie est... Et puis c'est ça, je me suis dit, cette citation-là m'a touché beaucoup, puis je trouvais que ça ouvrait bien la réflexion ouais. sur les Michelin.
Et c'est comme un moteur aussi. Je me demandais, est-ce que vous, Michel-Maxime Legault, MML.
M&M, comme le chocolat.
Est-ce que vous avez un talent non exprimé, une idée non partagée, un rêve qui n'a pas été réalisé ou un projet non accompli?
Bien, toujours. On a toujours ça comme humain. Tu sais, on se dit...
Ça serait plate si...
comme moi, il y a Fort Boyard, là, je me dis, faudrait... Si vous avez des contacts, je vais aller à Fort Boyard. Mais tu sais, mettons, des fois, je me dis, j'aimerais ça chanter dans la vie, j'aimerais ça... Tu sais, j'ai fait du piano, j'ai fait... Puis là, des fois, je me dis, mais c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on n'a pas le temps de faire parce que pas la vie va vite.
Oui. Pensez-vous qu'on fait vraiment ce qu'on a envie de faire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire et on fait des choix.
On fait des choix.
Alors, il faut faire les meilleurs choix, mais quelquefois, on n'a pas la chance de les faire et de réaliser aussi ce qu'on a envie de faire.
Il y a ça, puis les autres nous catégorisent beaucoup. Tu sais, les autres nous disent « Ah, t'es bon là-dedans. Ah, tu devrais t'en aller là-dedans. Ah, tu devrais appliquer sur tel poste. Tu devrais... » Puis moi, des fois, j'ai été pris un peu dans ça, dans ma vingtaine, trentaine.
Faire influencer un peu par les autres, c'est un peu normal.
Puis des fois, c'est de se dire « aller au bout de nos rêves », c'est de se dire « Non, malgré ce que les autres pensent, je vais le faire pareil. » Tu sais, donc, il y a quelque chose là-dedans que...
Vous évoquez Michel Tremblay parce qu'à un moment donné, dans Michelin avec un S, vous êtes dans la fameuse salle paroissiale, c'est à Vaudreuil.
À Vaudreuil,
je connais bien. Et donc, vous parlez de vos tantes. Les prénoms sont difficiles à trouver pour chacune des tantes parce qu'elles se ressemblent toutes, c'est ça?
Oui, puis je les vois une fois par année parce qu'ils ne venaient pas l'été parce que les agriculteurs, on était dans un rush incroyable. Fait que, tu sais, on se voyait au jour de l'an. Fait que là, ils les mettaient toutes sur une ligne, les tantes.
Il y avait un concours.
Puis là, il fallait les nommer. Puis si on les nommait pas, si on se trompait, on était éliminés. Donc, on était 40 cousins et cousines à nommer. Fait que là, moi, j'étais tout le temps à côté de ma cousine qui, elle les voyait souvent. Elle, dit, elle c'est Gisèle. Elle, c'est Huguette. Là, j'ai une chance que j'avais elle derrière moi. Mais c'est ça. Fait que pour moi, c'était des tantes. T'sais, ils sont formidables, ces femmes-là.
Mais vous étiez très proche de la tante qui habitait Laval, Micheline.
En fiction. Pas dans la vie.
Okay.
Pas dans la vie, c'était une des tantes, mais c'est juste qu'elle s'appelait Micheline, puis elle avait les cheveux au burn, les sourcils dessinés, fait que je me suis dit, elle, c'est Micheline, c'est clair.
Oui, et c'était la vraie belle-sœur de votre mère?
Ça, c'était la vraie belle-sœur, mais sinon, tout ce qui est une invention pure.
OK. Alors, donc, vous observez ces femmes-là. Vous me faisiez penser à Michel Tremblay dans ses récits où il raconte qu'il se tient en dessous d'une table pour écouter les conversations d'adultes de sa famille. Et vous êtes comme ça, vous, je pense. En tout cas, quand vous étiez plus jeune, j'imagine que vous êtes encore quelqu'un qui vous intéressait à la nature humaine. Mais vous observez les femmes jaser à la dame de pique à la salle paroissiale de Vaudreuil et vous l'écrivez vous-même. On pouvait assister à des nouvelles scènes de Tremblay. Mais est-ce qu'on fait souvent ce parallèle-là entre votre œuvre et celle de Tremblay?
Bien, c'est touchant, parce que tu sais, Michel Tremblay...
Ah non, je sais, c'est un monument. Là,
c'est un monument, tout ça. Tant mieux, là, tu sais, je m'en plaindrais pas.
Est-ce qu'il vous inspire?
Il m'inspire, oui, tout à fait. Mais je comprends la comparaison, mais tu sais, c'est une autre génération aussi.
Tout à fait, il y a le double de votre âge ou à peu près.
Je sais bien pas, je veux pas m'avancer, mais il y a aussi le fait que...
Mais moi, je m'avance, il y a 84 ans.
Ah bon, voilà.
Je sais pas, est-ce que vous avez quoi?
44.
OK, bon, à peu près.
Mais l'affaire, c'est que il y a aussi le regard, c'est pas le regard que j'avais aussi à l'époque, c'est le regard que j'ai maintenant aussi par rapport à la situation. Parce que à l'époque, j'étais trop collé sur la situation pour pouvoir avoir ce regard lucide-là sur ma famille.
Ouais.
Si j'avais écrit ça à 20 ans, ça aurait été un règlement de compte. Ça aurait été...
Ah oui?
Oui, je pense que oui. Parce que, tu sais, je voulais m'affranchir de ma famille, je voulais m'affranchir de mes parents.
Si on vous donnait toutes les permissions...
Ben oui, parce que j'avais envie de connaître ma vie d'artiste. Je voulais être à Montréal, je voulais vivre ma vie d'homosexuel, je voulais vraiment m'affranchir de tout ça. Et puis je voulais...
Il y avait une révolte.
Une révolte. Puis maintenant, à 40 ans, c'est comme si je fais « Ah, une chance que j'ai eu cette famille-là ». Et c'est pourquoi je fais encore ce métier-là. Parce que des fois, je rencontre des égos, je rencontre des personnes... Et je fais « Hey, mes parents, leurs valeurs, tout ça me met à la bonne place souvent quand je les revois.
Ouais.
Et ça me fait du bien vraiment de retrouver ces valeurs familiales-là. T'sais.
Est-ce que vos parents, votre famille suivent votre carrière? Vous voient au théâtre, à la télévision, on va vous voir dans Indéfendables bientôt?
Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, j'appelle ma mère, je dis, bon, mais là, je vais jouer dans Indéfendables. Elle dit, moi, les affaires d'avocat, j'aime pas bien ça. Mais tu sais, c'est vrai que tu sais, des fois, OK, ils voulaient que je sois à TV, mais là, finalement... Fait que c'est très drôle de voir, tu sais, cette... Puis c'est surtout la mise en scène. Mes parents, ils comprennent, mais ils comprennent pas ce que je fais. T'sais, ils comprennent, ils font « Ah oui, OK, toi, tu diriges.
Ouais. »
Mais tu sais, des fois, pour eux autres, c'est flou, mais en même temps...
Est-ce qu'ils vous posent des questions? Il y a une curiosité? Ou...
Oui, mais c'est toujours les mêmes questions. Fait que... Puis mais en même temps, tu sais, des fois, ils me parlent de leur tracteur, puis moi, écoute... Ouais. J'ai
ça vous intéresse
moins.
Ben,
j'ai le vide dans, dans l'œil, puis je peux leur répéter 3 fois la question, fait que je peux pas leur en vouloir de ça.
Non, non, chacun ses spécialités,
exactement.
Ses intérêts,
ouais.
Ses forces et ses faiblesses. Et donc, si on parle de l'adaptation cynique qui va prendre l'affiche chez Duceppe, il n'y a déjà plus de billets.
Bon, il va en avoir d'autres.
Qu'est-ce qui se passe?
Il va en avoir d'autres. On annonce des supplémentaires dès la semaine prochaine,
oui.
À la 5e salle, en mai prochain. Alors, vous pouvez vous inscrire sur le site de Duceppe.
Okay.
Comme sur la liste d'attente, vous serez les premiers, donc, pouvoir avoir vos billets.
Et vous allez aussi présenter le spectacle en tournée.
Oui, exactement, au Québec. Mais ça va être...
En 2027.
En 2028.
Ah, 2028,
oui,
okay.
C'est ça. Donc, c'est un petit peu plus tard. Mais l'adaptation scénique, c'est Marie-Hélène Gendreau qui a fait la mise en scène. En fait, je demande à un metteur en scène différent à chaque fois. La première fois, c'était Marie-Thérèse Fortin. Là, c'est Marie-Hélène Gendreau. Il y aura un autre metteur en scène pour le troisième. Mm-hmm. Et c'est Frédéric Bédard avec qui je joue sur scène. C'est super.
Pourquoi vous avez choisi Frédéric Bédard? Est-ce que
c'était
c'est vous qui l'avez choisi?
C'était écrit pour elle.
Ah,
j'ai
ouais.
pensé à elle tout le long que j'ai.
C'est quelqu'un que vous connaissez?
Oui, que j'ai dirigé. Elle faisait Elvis Presley dans une production et moi j'ai
Elvis.
Écoute, j'ai
peur
d'Elvis Presley, fait que ça m'a réconcilié avec Elvis Presley quand il m'avait appelé, il m'avait dit ouais tu vas faire à la recherche d'Elvis, j'ai fait ouais mais à la recherche d'Elvis j'ai peur d'Elvis Presley.
Mais pourquoi il vous fait peur Elvis?
Ça c'était un documentaire qui était genre c'était à TQS là, puis là c'était Elvis mort ou vivant. Puis là, il y avait une voix très, très grave qui disait qu'il avait trouvé Elvis dans une petite fenêtre. Puis là, on avait vraiment un zoom sur la face d'Elvis dans une fenêtre. Écoute, ce documentaire-là, ma mère a dit, ben voyons donc.
Vous le racontez dans Michelin?
Oui.
Oui, oui.
Puis je disais à mon père, Elvis est en dessous de mon lit. C'était pas des monstres qui avaient en dessous de mon lit. Moi, c'était Elvis.
C'était The King.
Écoute, fait que mon père, il disait, non, si Elvis était vivant, il y aurait d'autres choses à faire que d'attendre en dessous de ton lit. Écoute,
est-ce que ça vous a convaincu?
Ben oui, j'ai relativisé une année. J'ai fait, c'est vrai qu'il y a d'autres choses à faire, Elvis. Fait que, mais.
Et la mise en scène du spectacle.
Marie-Hélène qui fait un travail formidable.
Mais la mise en scène du spectacle d'Elvis avec
oui.
Frédéric Bédard, ça vous a un petit peu. Ben, ça vous a enlevé des peurs aussi.
Oui, oui, quand même. Là, tu sais, finalement, j'ai fait, bon, il n'est pas si pire, Elvis. Et finalement, Frédéric, j'ai fait, mon Dieu, c'est pour elle, Micheline. Fait que j'écris Micheline en pensant tout le temps à elle.
Oui, Micheline, là, c'est elle qui va incarner la Micheline qui est votre tante inventée, entre
exactement.
Guillemets.
Exactement.
Et vous, Michel Maxime, vous allez incarner votre mère.
Oui.
Vous n'en êtes pas une première mère.
Non, j'ai fait avec Rue Duplessis, j'ai fait la mère de Jean-Philippe Plou.
Oui, vous étiez tout à fait convaincant.
Ah, merci.
Mais incarner une femme, et maintenant, incarner une femme qui est votre mère, est-ce qu'il y a un défi, une difficulté supplémentaire?
Mais c'est quelque chose que je connais.
Ouais.
Dans ma mère aussi, tu sais, tout ce que je porte par rapport à la peur de ma mère. Ma mère est toujours
présence
dans la peur.
Forte,
oui. Et je
autoritaire.
Pense, c'est plus facile pour moi d'interpréter ma mère que mon père. J'ai passé plus de temps avec ma mère, fait que je l'ai étudié davantage.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a un danger de la caricaturer, de faire du cabotinage? Ou...
En fait, il faut comme y aller avec un peu plus toute l'intériorité plutôt que de faire des sparages,
ouais.
Mais il faut vraiment y aller avec l'intériorité, que ce soit une femme, un homme, non-genré, une personne reste une personne, puis tout ça, ben, c'est de faire en sorte de faire vivre des émotions qui appartiennent à une société. T'sais. Donc, c'est un peu ce que je vous dirais par rapport à ma mère. Je sais très bien où elle se situe.
Ouais.
Fait que c'est, pour moi, c'est plus facile de l'interpréter. Ma tante, ben, tu sais, Frédéric...
Est-ce que vous l'avez interprétée? Pardon de vous interrompre. Mais est-ce que vous l'avez interprétée devant elle?
Oui.
Et
oui.
Puis?
Bien, tu sais, elle comprend très bien. Puis toute ma famille était là pour Michelin. T'sais, pour moi, c'est important qu'ils voient. J'ai dit, ben ça passe ou ça casse. Fait que je les ai invités chez moi après pour prendre un verre de vin. Puis j'ai sorti beaucoup de vin, je vous dis. J'ai dit. Puis tout le monde a été... Ils comprennent complètement. Ils voient l'amour que j'ai pour eux. Puis,
ouais.
Tu sais, je vais les voir. Puis, j'ai tellement d'amour pour eux. Puis, tellement de...
Il y a de la tendresse.
Il y a de la tendresse. Pour moi, c'est tellement important. C'est ça, la base. C'est si j'avais pas ça, je le ferais pas. Parce que, tu sais, j'ai pas envie de bâcher sur ma famille. Comme, tu sais, eux autres. Puis, je leur ai dit, J'ai dit, tu sais, si mon frère Ghislain écrivait son roman, ben il serait différent parce qu'il y a des souvenirs différents de la famille.
Point de vue différent.
Complètement. Fait que c'est ça. Puis je leur dis tout le temps, c'est mon point de vue, mais en même temps, je dis, ça change tout le temps aussi.
Mm-hmm. C'est vrai. C'est en mouvement.
Ouais.
Donc, est-ce que Micheline, votre mère, sera de la première?
Non, pas de la première. Je vais la garder parce que je vais aller la chercher puis tout ça. Puis je veux vraiment qu'elle passe un moment... La première, on a beaucoup de choses à faire en tant que producteur et tout, là, tu sais, fait que je me suis dit...
Ah, j'aimerais ça être là le soir où votre mère va être là. Mais c'est un 5 à 7. Pourquoi cette formule-là et cet endroit-là pour présenter la pièce?
Bien, il y a une intimité. Du CEP font ça depuis... puis c'est vraiment un gros succès, ces 5 à 7-là. Ça fonctionne très bien. Puis
on a une petite bouchée, une petite boisson.
C'est pas trop cher.
Ça dure une heure.
Ça dure une heure. Puis après, ben, vous avez toute votre soirée. Ouais. Fait que c'est formidable. Puis pour la cinquième salle, ben, ça va être une jauge aussi qui n'est pas... Tu sais, c'est pas du CEP, là, dans...
Non. Donc, ça contient quoi? 50-100 personnes environ?
Les 5 à 7, on est à 75 comme jauge, fait que c'est une petite jauge.
Vous êtes très près du public.
Très près. On est collés, c'est comme si je vous racontais mon histoire directement.
Les répétitions se passent bien?
Ben là, on a commencé au BIC, fait que là, on est comme prêt à rentrer à du CEP.
Oui.
Et ben, on a saisi son hâte de rencontrer le public ici.
Au BIC, est-ce que c'était aussi une salle assez intime?
C'est comme je vous dirais 200-250, on avait comme des salles, on a eu 3 représentations, puis pour moi c'était très important de commencer le spectacle en région parce que c'est de là que je viens. C'est un peu la même chose avec Micheline qu'on avait fait en Abitibi en premier, en Abitibi-Témiscamingue. Puis Michel va commencer à Saint-Polycarpe, c'est ce que je prévois.
Alors voilà,
dans mon village.
Saint-Polycarpe, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à faire du tourisme à Saint-Polycarpe
J'espère. Écoute, on fera des
autobus.
C'est
beau à Saint-Polycarpe. J'ai une de mes sœurs qui est allée dans un mariage à Saint-Polycarpe. Elle m'a montré des photos. J'avais l'impression qu'on était en Toscane.
Ah, mon Dieu. OK, bien, je ne sais pas quel point de vue vous avez vu, mais en tout cas, j'aimerais bien voir ces photos.
Un beau grand champ, une super belle piscine. C'était très joli. On allait acheter aussi nos asperges chez la Bonté.
La meilleure
crème d'asperges au monde. Et si on revient à votre œuvre, mais on parlait de Saint-Polycarpe quand même. Micheline, ici, c'est le deuxième de la trilogie, le troisième livre qui va être une sorte d'hommage, en tout cas, qui va raconter votre père et les pères de cette génération-là. Ouais. Est-ce qu'il est en route? Il est écrit?
Il est écrit. Je l'ai écrit en résidence au Festival America à Vincennes pendant 3 mois. Fait que je suis parti 3 mois en France.
Wow.
C'est ça, il est écrit. Puis les éditions du Quartz, c'est ça, m'accompagne depuis le début. Fait qu'on travaille vraiment en étroite collaboration, Marie-Noëlle Blais et moi. Donc, on va présenter le troisième tome en automne 2027.
Okay. Vous avez beaucoup de pain sur votre planche, Michel, Maxime. Et est-ce qu'on peut lire Micheline sans avoir lu Michelin?
Complètement.
Dans l'ordre, dans le désordre.
Ah, oui, complètement.
Ouais. Ouais. Mais privez-vous pas du plaisir de découvrir aussi Michelin. On parlait de Micheline avec Michel-Maxime Legault, qui est un roman disponible aux éditions Quartz, qui a été lancé le 25 août dernier, que j'ai lu 2 fois et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Merci.
Et j'ai bien hâte de voir aussi ce que ça donne sur une scène avec Frédéric Bédard et Michel-Maxime Legault. Merci d'être passé en studio.
Merci.
À la prochaine.